Ensemble sur Calade, c'est en direct du lundi au vendredi de 12h12 à 13h. Et c'est évidemment sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ensemble sur Calade, l'émission qui vous accompagne pendant votre pause déjeuner, même si vous télétravaillez ou que vous êtes à la retraite. J'espère que vous êtes en forme. Nous sommes le vendredi 2 avril 2021. Il fait toujours aussi beau dans le Beaujolais avec des températures autour de 22 degrés l'après-midi. Ça va se rafraîchir ce week-end avec des maximales attendues à 16 ou 17 degrés, mais le soleil reste au rendez-vous samedi et dimanche. Au programme de notre émission, comme chaque vendredi, bien des jeux de société présenté par l'équipe du Lorana, le café ludique de Villefranche, et de la musique, l'album coup de cœur de notre disquaire Pitch, et une très très chouette sélection cette semaine. Ce sera en fin d'émission. La première partie, eh bien, on la passe bien sûr avec nos invités. Aujourd'hui, on retrouve Jeanne Heurteau, qui est à Kabadio, un village sénégalais, missionné par l'association Perma Kabadio pour une étude ethnologique autour de la question de l'émigration. Est-ce que la permaculture est une bonne solution contre l'exode des jeunes? Elle a été rejointe au début du mois de mars par Adrien Scat, photographe, qui l'aide à documenter son étude à travers ses photographies. On prend de leurs nouvelles depuis plusieurs mois maintenant, savoir comment se passe le voyage, et on les retrouve dans une interview enregistrée il y a quelques jours. On a préféré enregistrer à l'avance cette fois pour éviter des soucis de liaison pendant le direct. Avant d'écouter ça, eh bien, on commence bien sûr en musique avec un titre qui met de bonne humeur. C'est le dernier Backermat avec Nick Hanson, ça s'appelle Walk That Walk et ça fait du bien. Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h15, merci d'être avec nous. Backermat sur Calade avec Nick Hanson, Walk That Walk.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur
Calade.
Allez, tout de suite, on retrouve nos invités du jour. Ils sont actuellement à Cabadio. C'est Jeanne Heurteau et Adrien Skatz. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes parti à Cabadio, en Casamance, au Sénégal, pour un projet qui s'appelle Ethnophoto à Cabadio. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que ce projet ?
Oui, du coup, ce projet, en fait, il a été demandé par Benjamin Jaïr, qui est responsable de l'association, de venir en fait interroger des jeunes qui se trouvent dans l'association pour savoir un petit peu pourquoi ils sont partis à un moment donné du village. Donc à la fois c'est des personnes qui sont déjà parties et c'est en même temps des personnes qui sont pas parties pour connaître un petit peu voilà les raisons qui font qu'ils sont dans cette association.
Ce phénomène de migration, il s'explique comment, qu'est-ce qui fait que les jeunes partent?
Ben à la fois ça peut être des choix individuels, c'est-à-dire que le jeune a envie de partir, alors ça peut être pour découvrir en dehors du Sénégal ce qui se passe voilà en Europe. Ça peut être pour des raisons aussi pour aller étudier parce que du coup dans le village il y a deux écoles primaires mais du coup il n'y a pas à partir du collège les jeunes sont obligés de partir au collège donc voilà ils partent pour se rencontrer qui vont au lycée bah ils doivent partir aussi et puis il y a ceux qui vont à l'université donc voilà donc on a déjà ces deux formes de mobilité
pour le travail et pour les études
et puis après effectivement il y a le cas de figure où la personne voilà là c'est quelqu'un de sa famille qui est malade qui peut pas se soigner ici parce que les frais coûtent cher donc la personne se sacrifie hein, c'est le mot qu'ils me disent donc se sacrifie pour partir jusqu'en Europe et puis après on a encore un autre cas de figure où c'est quelqu'un de la famille qui décide que ça soit un jeune de la famille qui parte voilà alors à la fois pour ça peut être pour ses questions de santé ça peut être voilà pour en tout cas c'est des rapports à l'argent effectivement qui se joue à ce niveau-là.
Et dans ce cas-là, c'est imposé, ça veut dire ?
C'est imposé. Le jeune donc, est au courant, pas forcément par la personne qui décide directement. Ça va être discuté en famille. Et puis, il y a une personne qui est aussi choisie dans la famille pour dire à l'enfant, au jeune, qu'il doit partir. Et après, le jeune, en tout cas, dans les personnes qui m'ont parlé, voilà, le désir est là aussi de partir. Donc, après, à voir où est la limite entre ce qui est imposé, où est le choix de la personne. Mais en tout cas, la personne qui est désignée va le faire, ouais.
La particularité de Cabadio, cette étude, vous la faites dans ce village-là. J'imagine que des jeunes qui quittent leur village au Sénégal, ça se passe pas qu'à Cabadio.
C'est vrai que moi, ce que j'étudie, donc c'est vraiment ce qui se passe dans ce village à Cabadio. Il faut que j'étudie aussi un peu les villages alentours. Mais disons que je n'ai pas pour l'instant une vue d'ensemble et que pour l'instant, c'est très centré sur le cas de Cabadio. D'un village à l'autre, voilà, c'est pas forcément les mêmes problématiques. Par exemple, le village voisin de Cabadio qui est Abéné, on a là-bas un collège.
D'accord.
Donc effectivement, les jeunes, ils partent déjà un peu plus tard.
D'accord. Et du coup, la particularité de Cabadio, qu'est-ce que c'est ? Je sais que là-bas, c'est Perma Cabadio, une association qui a mis en place de la permaculture. Est-ce que c'est ça qui fait l'intérêt de l'étude ?
Oui, alors du coup, c'est Adrien. Alors Cabadio, c'est un village qui est reculé par rapport aux autres. On est vraiment sur un village de brousse qui est plus enclavé que les villages avoisinants. Ce qui va jouer un rôle forcément donc aussi la particularité du fait qu'il n'y ait pas de collège donc que l'école s'arrête après la primaire et donc voilà sinon il y a l'association pourquoi on est ici c'est parce qu'il y a l'association Perma Cabadio donc qui œuvre ici contre l'exode des jeunes qui lutte contre l'exode des jeunes par la culture donc l'idée c'est de créer une autosuffisance et une connaissance en permaculture pour les jeunes du village et les jeunes avoisinants. Donc il y a des jeunes gambiens, car on est très proche de la frontière gambienne, et des jeunes du village et d'autres villes de Casamance.
Pour qu'on se rende compte, parce que alors, la dernière fois j'ai dit une grosse bêtise, j'ai dit que vous étiez sur l'autre hémisphère, c'est pas vrai, mais vous êtes quand même sur une autre partie du monde, quoi, sur un autre continent où la vie, j'imagine, ouais, est bien différente de ce qu'on connaît en métropole. Pour qu'on se donne une idée de la différence qu'il peut y avoir, c'est quoi le niveau de confort à Cabadio ? Nous, ici, on a l'électricité, on a l'eau, on a des choses qui nous paraissent évidentes. Est-ce que c'est le cas là où vous êtes ?
Alors, je vais partager en deux. Il y a le village de Cabadio. Allô ?
Ouais, je vous entends.
Pardon. C'est vous qui captez mal.
C'est
vous qui captez
mal. Hein.
C'est vrai, nous, on a des gros problèmes de communication.
Alors, les conditions ici. Donc, l'électricité a été installée à Cabadieu en 2007. Donc, aujourd'hui, il y a l'électricité dans le village. Pour l'eau, la majeure partie de l'eau vient des puits. Donc, il y a des forages un petit peu partout dans le village, ce qui permet aux gens d'avoir de quoi arroser et d'avoir de l'eau.
Ouais.
Donc, on n'a pas d'eau courante. Hein, et sur, sur les autres, sur Internet, il y a du réseau à quelques endroits, comme vous pouvez le voir.
Ouais.
Et très peu de jeunes, il y a très peu de Wi-Fi, il y a très peu de conditions comme celle-ci. Et qu'est-ce que je peux vous dire? En infrastructure, les écoles primaires, il y a un dispensaire donc, qui sert de pseudo-hôpital sur place. Il y a une maternité qui est ici à Cabadieu. Et on a également une ambulance qui permet d'envoyer s'il y a des grands blessés ou des décès. Il y a eu un décès récemment qui permet de récupérer le corps et de le ramener aussi au village ou de le ramener dans une autre ville, quoi.
Et l'ambulance,
donc voilà les choses qui y a ici.
L'ambulance, c'est celle qui a été envoyée il y a quelques mois par l'association
il y a un an et qui est arrivée il y a quelques mois par Benjamin Jair, par l'association Parma Cabadieu. Et donc proche de ce petit village, il y a Bindoula qui est la ferme, si je puis dire, de Parma Cabadieu, où on vit nous, qui est à 10 minutes à pied du village. Et là-bas, on a de l'électricité que solaire, donc on marche sur des batteries. Donc on a de l'électricité principalement la journée. Et on a 3 puits sur le terrain donc pour irriguer toutes les plantations. Et ainsi qu'un forage qui est filtré, donc qui nous permet d'avoir de l'eau propre pour boire, pour faire la vaisselle, pour cuisiner, pour se laver.
D'accord. Et toujours dans l'idée de comparer un petit peu ce qui se passe entre ici et là où vous êtes, nous, la problématique dont tout le monde parle tout le temps, c'est bien évidemment le Covid et les questions de vaccins. Est-ce que ça fait partie des préoccupations à Cabadieu?
Alors, pour juste vous rendre compte, alors ici, il y a, je pense, des problématiques plus graves que le Covid ici. Il n'y a pas forcément de cas, en tout cas on n'en parle pas. Ici on a, ils ont gardé les mêmes manières de vivre, on serre tous la main et c'est important de serrer la main à tout le monde. Dans un endroit comme Bindoula où on vit, on a un seau pour boire de l'eau et il y a un verre pour tout le monde. On mange tous dans le même plat, donc ça fait partie aussi des traditions ici et des manières de vivre qui n'ont pas du tout changé. Il n'y a pas d'histoire de vaccin, sûrement vers Dakar, etc. Mais dans des petits villages de brousse comme ici, c'est clairement pas le sujet. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas toute cette contrainte qu'on peut avoir en Europe. Mais bon, il y en a d'autres.
Vous, Adrien, je crois que vous êtes arrivé il y a quelques semaines. Ça a dû faire.
Il y a 2 semaines, ouais.
Un grand changement. Et après un an de confinement.
C'est ça. J'ai eu de la chance. J'étais à La Réunion juste avant. Donc, c'était beaucoup moins fort qu'à Paris, mais je suis passé à Paris avant de venir ici et effectivement, passer du couvre-feu à un endroit où on serre la main à tout le monde et on boit tous dans le même verre, c'est intéressant.
votre mission là-bas, entre guillemets, c'est il y a deux approches. L'approche de l'ethnologue pour essayer de comprendre une culture et puis un phénomène de migration, ça se passe comment? C'est par le dialogue, Jeanne?
Alors, oui, du coup, il y a deux principales méthodes. Donc, deux principales méthodes. Donc, on a les entretiens, c'est-à-dire que c'est une discussion qui se passe entre moi et la personne qui fait partie de l'enquête ethnologique. Et puis, là, c'est à ce moment-là que je pose des questions. Et puis il y a la deuxième méthode, c'est l'observation. Donc on parle d'observation participante lorsque, en même temps que j'observe les personnes, je fais avec elles, c'est-à-dire que je participe aux actes de la vie quotidienne, je participe au jardin. Donc tous ces éléments en fait me permettent à la fois de créer aussi une complicité avec les personnes, enfin en tout cas une relation proche avec la personne. Je me retrouve souvent seule avec une personne en train d'arroser et en train de faire des choses. Donc, ça me permet vraiment de créer un dialogue voilà, pour essayer de comprendre en fait, la personne, ce qu'elle vit, ce qu'elle pense. Et voilà.
Très bien. Et au niveau d'Adrien, pour la photographie, là, l'objectif, c'est de ramener des images documentaires, on va dire.
Ouais, alors j'ai plusieurs missions, on va dire, ici. La première, ça va être de documenter le travail de Jeanne, documenter voilà, les moments où elle est seule avec quelqu'un, les moments où elle est en entretien avec les gens, les moments où elle observe, etc. Donc, ça va être vraiment de documenter son travail. Sa manière de travailler, ce qui va permettre pour elle d'avoir du contenu là-dessus. Mon deuxième, ça va être de documenter la formation Permacabadio qui va avoir lieu dans 2-3 semaines, donc avec Benjamin Jaïr et plusieurs personnes qui vont venir ici. Donc voilà la formation. Et ensuite, documenter la vie du village, la vie de Cabadio, la vie à Bindoula, donc la ferme où on habite. Et voilà, les événements qui peuvent avoir lieu. Il va y avoir un baptême le 4 avril. Il va y avoir voilà, pas mal d'événements ici. Donc voilà, couvrir ça, aider les jeunes, aider les associations sur place ou aider voilà, le village pour avoir des images de leur village, des photos, des événements, des gens, etc.
Que ce soit pour prendre en photo des gens ou pour ouvrir le dialogue avec eux et discuter, ça demande d'avoir d'abord leur confiance, c'est un travail de longue haleine. Faut essayer d'être bien accueilli, bien intégré, j'imagine. Comment ça se passe?
Ouais. Alors, pour ma part, dans la photo, les gens sont, je pense, très contents de voir quelqu'un qui vient s'intéresser, vient les photographier, et vient documenter leur vie, ce qui se passe, surtout à Bindoula, donc à la ferme de Permacabadio. Documenter voilà, leur manière de vivre, la permaculture, leur terrain, leur rose quand ils vivent, etc. Donc vraiment leur quotidien.
Ouais.
Alors il y a beaucoup de coutumes que voilà, ici on est obligé de se présenter au chef du village, de présenter ses projets, de se présenter aux anciens du village. Et en fait, eux acceptent, donc on vient expliquer le projet. Et une fois qu'on a leur accord, c'est vrai qu'on peut accéder un petit peu à tout. Le village, donc ça permet d'être accepté, que tout le monde sache pourquoi on est là, que c'est une manière bienveillante.
Les deux approches, que ce soit l'ethnologie et la photographie, comment ça va se compléter, le résultat final de votre travail, ça va ressembler à quoi? C'est une exposition?
Oui, voilà, c'est ça, c'est que, alors à la base le projet de cette recherche ethnologique, c'était de participer à l'écriture d'un livre entre Benjamin et Papis, donc Papis qui est le responsable ici sur place, au Sénégal. Et en fait, après, il y a eu la rencontre avec Adrien, et on a un petit peu transformé le projet, c'est-à-dire que plutôt que de passer d'abord par un livre, on va passer par une exposition, donc à l'aide des photos d'Adrien, et en fait, ça va permettre en fait, de mettre en image les textes, parce que de décrire des choses qui se passent à travers les mots, on voit qu'il y a toujours une limite, les mots ne peuvent pas tout raconter. Donc du coup, la photographie, c'est pour ça qu'elle est intéressante, elle pourra vraiment mettre en image les propos, parce que le travail d'une ou d'un ethnologue est souvent accompagné de photos, donc c'est la personne qui fait les photos, et là, le fait d'avoir une personne extérieure qui dédie vraiment tout son temps à la photographie et qui est professionnelle, c'est intéressant pour avoir vraiment un rendu de qualité. Et voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne.
Très bien. Le projet, il a commencé, je crois, avec un financement participatif. Comment ça se passe aujourd'hui? Il y a des aides qui ont été trouvées ou...
Alors, on a lancé il y a à peu près 4 mois une cagnotte en ligne, donc sur le site de Hello Asso. Donc ça a permis en fait de couvrir les frais de mon billet d'avion à moi d'aller-retour. Et de pouvoir aussi effectuer des déplacements sur place, parce que du coup il y a à peu près un mois, je me suis déplacée jusqu'au nord du pays, donc à Saint-Louis, puis après à Dakar, pour essayer de trouver des financeurs et puis des partenaires, donc à la fois trouver de l'argent et puis des personnes qui pourraient nous ouvrir leurs portes pour exposer dans leur lieu. Donc c'est comme ça que j'ai pu on a pu trouver une bibliothèque de l'université de Cheikh Anta Diop à Dakar, un centre culturel régional à Saint-Louis, et puis différents petits lieux comme ça. Et pour l'instant, voilà, il y a quelques promesses d'appuyer notre projet avec des financements, mais il y a pour l'instant rien qui est réalisé. Donc pour l'instant, on vit vraiment avec la cagnotte. Et il y a un deuxième projet, donc ça, je te laisse en parler, Adrien.
Ouais, et du coup, moi, j'étais extérieur à cette cagnotte. Et donc, j'ai décidé de pré-vendre les photos du projet, donc des photos qui ne sont pas forcément encore prises. Mais voilà, de pré-vendre sur une cagnotte qui est sur Kiss Kiss Bang Bang, sur Internet, qui permet de pré-acheter les photos du projet, donc suivant la taille, etc. Il y a des prix par rapport à ça. Donc voilà, à partir de 50€, on peut avoir une photo qui sera numérotée et signée à la fin du projet, donc au choix des gens.
D'accord.
Donc voilà, ce qui permet moi d'avoir un petit peu de trésorerie pour pouvoir ensuite faire les tirages pour l'exposition, pour voilà, proposer une exposition de qualité.
Bien sûr. Ok. Et on retrouve tout ça, on mettra tout ça en ligne avec le podcast de l'émission, les liens pour retrouver tout ça. Avant de se quitter, est-ce que vous pouvez nous faire un petit cadeau, nous faire voyager en nous décrivant juste à quoi ça ressemble autour de vous, là où vous êtes, ce que vous voyez?
Alors on est sous des mangues. Donc on fait attention parce que les mangues, elles ne sont pas encore mûres, elles sont bien dures et puis elles tombent à terre. Du coup, on fait attention de ne pas s'en prendre sur la tête.
On est donc sous les manguiers, on est au terrain de foot de Cabadio.
Ouais.
Donc c'est un grand, grand terrain, tout en sable, même presque deux terrains de foot où à partir de 4h de l'après-midi, c'est plein de jeunes. Il y a des vaches à l'ombre au bord du terrain de foot à l'ombre, qui dorment.
Il y a des personnes qui captent le réseau comme nous, sur le manguier.
Il y en a d'autres, c'est un point de rendez-vous.
Ouais, c'est un peu point de rendez-vous. Il y a des petits bancs qui ont été fortement installés. Et sinon, autour de nous, on aperçoit le début du village avec des petites cases en argile. Ouais, c'est en terre, ouais. Ouais, en terre, ouais. Des petites cases en terre avec des toits en paille. Il y en a avec des troncs de tôle et voilà.
Des poules, des chèvres,
des vaches autour de nous.
Des enfants.
Et des enfants, ouais.
Merci beaucoup. on s'y croyait.
Merci.
Merci beaucoup. On va mettre tous les liens pour vous retrouver, pour suivre votre voyage et votre travail. On se dit à bientôt pour prendre encore des nouvelles, savoir peut-être quand vous reviendrez en France, comment ça s'est passé. Faire un bilan.
Avec plaisir.
Merci beaucoup.
Ensemble, sur les Calades.
Allez, on va faire une petite pause musicale avant de parler de jeux de société. Ce matin, je me sentais un petit peu punk. On écoute les Ramones avec Rockaway Beach.
1, 2, 3, 4. Rock away, bitch.
fait du bien de se défouler un peu avec les Ramones, Rockaway Beach.
Ensemble sur Calade, la rubrique jeu de société, Lorena ludique.
C'est un peu secoué les cheveux dans le studio autour des Ramones avec l'équipe du Lorana. Bonjour, il y a Laura, Anna et Cédric qui sont avec
bonjour,
moi.
Bonjour,
ça va bien ?
Ça va, merci.
Au top. Et ben, vous nous proposez chaque semaine une rubrique avec des jeux de société, une thématique. Qu'est-ce que vous nous avez amené aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on part jardiner.
On va jardiner pour le printemps, c'est voilà, une très bonne idée.
C'est le printemps, c'est Pâques, alors on est en extérieur, on jardine.
Très bien. Alors, on a quoi comme jeu ?
Alors, on a des jeux pour enfants, donc Flora Color et Camoufle Animaux.
On a Ohanami, donc là, on est sur du jardin japonais.
Ok.
Et on a Ishtar, les jardins de Babylone.
Très bien. Et bien, on commence par quoi ? Par les jeux pour enfants ?
Tout à fait. On commence par les jeux pour enfants. Donc, Flora Color et Camoufle Animaux, ce sont deux jeux d'Agnès Largeau, qui est une Lyonnaise, édité chez Djeco. Ce sont des jeux de 5 à 10 ans, pour 2 à 4 joueurs, et qui durent environ 10 minutes. Ce sont des jeux éducatifs, de stratégie et de couleurs. Dans le premier, dans Flora Color, on est des jardiniers, et le but est de réaliser des bouquets de fleurs et obtenir 8 points en premier. Donc on a un plateau de jeu avec plein de fleurs de différentes couleurs, qui sont des couleurs primaires, rouge, jaune, bleu, et des couleurs secondaires, violette, verte et orange. Il faut déplacer notre jardinier pour cueillir des fleurs primaires afin de réaliser des fleurs de couleur secondaire. Et après, on remplit des objectifs qui sont des bouquets de fleurs, donc d'assembler des différentes couleurs et avoir des points.
D'accord.
Et dans l'autre, eh ben, on a un petit parcours avec différents éléments qu'on va trouver dans le jardin. Donc on va avoir des champignons, des trèfles, des morceaux de bois, de différentes couleurs. Et il va falloir, pour avancer, soit avoir la bonne couleur ou alors le bon élément pour pouvoir avancer tout simplement. Donc on est dans le jardin avec des animaux et des fleurs.
Ok, des petits jeux éducatifs qui commencent à partir de ses 5 ans, c'est ça ?
Alors, en Camoufle Animaux, c'est 4-8 ans et Flora Color, c'est de 5 à 10 ans. Mais oui, on peut jouer à partir de 4 ans tout à fait.
Très bien. Super, merci beaucoup. On continue avec, alors celui-là, il n'est pas facile à dire, c'est
Ohanami.
Ohanami.
Ohanami. Ohanami. Donc c'est un jeu de 2 à 4 joueurs qui dure à peu près 20 minutes et on peut y jouer à partir de 8 ans et c'est édité chez Oya. C'est un jeu de cartes, donc assez basique en termes de jeu de cartes, un jeu de draft de cartes et de collection. Chaque joueur doit réaliser 3 jardins japonais qui vont être sur 3 colonnes. 3 colonnes différentes avec les éléments suivants, donc l'eau, la végétation, les pierres et les sakuras. Sakuras, ce sont...
C'est les cerisiers japonais.
Ouais. Pour cela, on a 3 saisons et à chaque saison, on compte les éléments mis dans notre jardin. Donc, première saison, on va mettre de l'eau et dans la deuxième et la troisième saison, on va recompter l'eau. Donc, à chaque fois, on va rajouter un élément. Tandis que le sakura, lui, il court sur toutes les saisons et à la fin de la troisième saison, on compte les sakuras qu'on a dans notre jardin.
D'accord.
À chaque début de saison, on distribue 10 cartes à chaque joueur. On les draft. Donc, les drafter, ça veut dire qu'on les passe les uns aux autres. On en garde 2. Et les 2 cartes qu'on aura gardées, on va les mettre dans les différentes colonnes. Et comment on les place ? Du coup, les cartes doivent être placées en fonction de la valeur qui est indiquée sur la carte. Et on les pose, du coup, soit en dessous, si elle est au-dessus ou elle est en dessous, évidemment. Et le gagnant sera celui qui aura le plus de points en fonction des éléments qu'il aura mis dans ses jardins, dans son jardin.
D'accord. Donc on essaie de faire le plus joli jardin.
Le plus joli, oui, et surtout celui qui va marquer le plus de points.
Bien sûr.
C'est ça.
Puisque comme on recompte à chaque fois les éléments, et que les éléments ont des valeurs différentes, il faut essayer de jongler et de voir ce qui va scorer le plus.
Très bien. Donc, de la stratégie pure et dure.
La stratégie, pas trop compliquée quand même. Hein.
Ouais.
Et puis, bah, il faut... En fait, là où la difficulté, c'est que bah, comme on récupère les cartes des autres, il faut voir les numéros qu'on a dans nos colonnes pour qu'il n'y ait pas des trop gros écarts de chiffres.
Mmh.
Puisqu'évidemment, entre chaque chiffre, on ne pourra pas glisser
une carte.
Une autre
après,
carte.
C'est trop tard.
Voilà,
d'accord.
C'est ça. Et si on ne peut pas placer ces cartes, bon, on est obligé de les défausser.
Et on perd des points.
Donc on perd des points, exactement.
Ok. Ohanami.
Ohanami.
Super. Je vois qu'il reste une très grosse boîte.
C'est ça. Donc là, c'est Ishtar, donc les Jardins de Babylone, donc créé par Bruno Catala et Evan Singh, et édité chez Yellow. C'est donc un jeu pour 2 à 4 joueurs âgés de 12 ans ou plus pour des parties allant jusqu'à 45 minutes. Donc dans Ishtar, en fait, chaque joueur incarne un jardinier et doit créer le plus magnifique des jardins. Donc le plateau, en fait, c'est un immense désert inspiré du jeu de Go, donc avec des cases qui sont à la fois vides, d'autres où il y a des diamants, des rochers et des fontaines. Donc à chaque tour, le joueur actif donc, pioche une tuile à un jardin qui peut avoir différentes formes. Cette tuile peut avoir soit une seule place sur le plateau, ou 2 ou 3. Et on doit les placer donc, stratégiquement sur le plateau, parce que le but, c'est de contrôler donc, le maximum de fontaines qu'il y a sur le plateau, de collecter aussi des diamants, et de bloquer les autres joueurs en plaçant nos tuiles jardin pour éviter qu'eux se développent. Donc, on peut leur barrer le chemin, la route, pour aller irriguer leur jardin par rapport aux autres fontaines qu'il y a. Donc ensuite, quand on récolte des diamants, ça nous permet aussi d'acheter des compétences ou des arbres pour améliorer le jardin. Donc quand on améliore le jardin, on marque plus de points en fonction des arbres, leur valeur et tout ça. Ou sinon, on peut aussi booster son jardinier en dépensant ces diamants-là. Donc on peut planter plus d'arbres, poser plus de tuiles, ce genre de choses, aller plus vite en fait, dans le développement de son jardin. Et donc après, le vainqueur, c'est très simple, hein, c'est celui qui a le plus d'arbres dans son jardin, le plus de fontaines contrôlées et qui a aussi le plus grand jardin.
D'accord, donc jeu de placement, et là pour le coup c'est de la stratégie.
Oui, c'est plus stratégique parce qu'on va vraiment regarder comment jouent les autres joueurs et donc leur barrer la route pour pas qu'ils puissent aller ramasser des gemmes ou contrôler d'autres fontaines.
Chercher à marquer des points mais aussi faire en sorte que les autres n'en marquent pas.
C'est ça.
Jeu de compétition pour...
On embête les autres joueurs.
Très bien. Ok, on peut récapituler. Alors il y avait des... on commence par les jeux pour enfants, c'était...
Flora Color et Camoufle Animaux.
Il y avait aussi Oanami. Et donc Ishtar. Merci beaucoup.
Merci.
Très bientôt sur Calade.
À bientôt.
Ensemble sur Calade. La rubrique Jeux de société. Lorana ludique.
Allez, petit hommage à Patrick Juvet qui nous a quittés hier. On écoute une reprise de son titre culte Où sont les femmes. C'est les Wampas qui nous l'interprètent.
Par hasard, elle fait de bien le soir.
Les Wampas qui reprenaient Où sont les femmes.
Vous aimez mieux les disques ou la radio?
Tais-toi, je réfléchis.
Alors, change de disque, ok?
Je crois qu'on ferait mieux d'avoir recours à un spécialiste.
Le choix du disquaire.
C'est le meilleur expert ici, il connaît toutes ces choses.
Alors, trouvez-moi une musique légère, spirituelle, subtile, dosée.
Allez, une belle pépite, rien que pour les banlieusards.
Allez, on retrouve effectivement notre disquaire Pitch tout de suite.
Oui, tout à fait.
Salut, comment ça va?
Super, tu vois, le disquaire ouvre son petit magasin de disques. À l'instant même.
Ça y est, t'ouvres la boutique?
Je la ferme, mais je la rouvre pour récupérer des choses et mieux parler avec toi, qu'on ait une meilleure qualité audio pour nos chers auditeurs.
Très bien, très bien. Je réexplique le principe. Toutes les semaines, tu nous proposes ta sélection d'albums.
Avec amour.
Avec amour, effectivement, l'album à découvrir, à écouter. Et comme je le disais en intro de cette émission, aujourd'hui, tu m'as fait plaisir. Super, super sélection. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est?
Écoute, merci à toi de me demander de me mettre à jour et de faire une sélection pour la radio, encore une fois. Hier, j'ai pris du plaisir à faire ça, à regarder ce qui était sorti en 2021, en soul, en funk, en album, ce qui était vendu en France. Et je suis tombé sur une compile de la Blaxploitation, qui est un courant culturel, musical, très très cher à mes yeux, parce que j'ai animé une émission de radio local qui s'appelle Cinéma du Sinista, et c'était ça à fond, quoi. Donc Blaxploitation, musique de film où ceux de couleur blanche sont au second plan. Et musicalement ça a été tout un courant qui me passionne encore aujourd'hui, et là la compile elle est juste trop bien. Il y a plein de morceaux qu'on connaît mais qu'on n'a pas, des gros classiques, il n'y a pas un morceau à jeter. Pour les avoir en 45 tours, faut être très très riche. Donc là, c'est juste parfait de faut sauter sur cette compile qui fait partie d'un sous-groupe de Wagram, il me semble. Je sais pas si toi t'as retenu ça, et qui du coup a fait une série où il y a eu plein de styles de musique. Donc voilà, les gars qui sont à la sélection et les gars qui de la maison de disques est énorme et qui font les choses, je les félicite. Voilà, c'est de l'industriel qualitatif.
Une excellente compile. Et c'est la Blaxploitation, c'était du cinéma à la base, c'était dans les années 70.
Voilà, c'est ce que je disais parmi mon éclat de mots. on est dans une période début 70, mais vraiment 70, jusqu'à 80, ils ont mis Car Wash, la BO de Car Wash, on dit qu'elle fait partie de la Blaxploitation, dans un délire un petit peu plus disco-funk.
Ouais.
Alors, il y a des acteurs quand même qu'il faut nommer. Hein. On pourrait parler des heures ensemble de la Blaxploitation. Moi, je fais des expos et tout. Les visuels m'intéressent. Donc, Pam Grier reste vraiment l'actrice qui incarne encore la pochette du disque dont on est en train de parler. Mmh. Donc, Pam Grier, c'est Jackie Brown, c'est Tarantino qui l'avait remis au goût du jour dans Jackie Brown. C'est Kofi. Donc, c'est... Là, la gangstiest, c'est elle, c'est celle qui combattait le
crime.
Ouais, merci de m'aider. Ouais. Elle combattait le crime à merveille avec toutes les armes possibles, celle de autant de son charme aussi. Ouais. Elle peut avoir la mitraillette d'un côté et être charmante, quoi. Mais pour la justice en tout cas. Et ces films, ils sont énormes. Ils sont ensoleillés.
Ouais.
C'est juste comme en ce moment. Donc c'est pour ça peut-être que je me suis projeté là-dedans. Bon, on pense à ces films, il y a toujours du soleil.
Et donc autour de ces films, il y avait des artistes qui faisaient les BO, les bandes son, et c'est vrai que ça laisse un gros bagage musical.
Ouais, Roy Ayers, que j'ai eu la chance de voir en concert à Lyon, Ninkasi, que j'ai eu la chance de rencontrer. Roy Ayers, c'est un géant.
On va écouter un extrait alors de cette compilation Wanted Blaxploitation.
Je vais pas couper la communication.
Je la belle Wagram.
Mais moi j'écoute là.
Très bien. On écoute Jerry Butler. Alors il fallait que je choisisse parmi il y a une dizaine de titres tous aussi bons les uns que les autres. On écoute Speak the Truth to the People de Jerry Butler, et je crois que c'est issu
de 72.
De 72, issu du film Frankie. On écoute ça tout de suite. C'est parti. Merci Pitch. À bientôt.
À bientôt.
Want you to tell them
what?
Tell the truth to the people.
Ooh.
Want you to talk love.
Love.
Talk about love to the people.
Ooh.
Every day, pray and day. Speak love to the people.
Sur Kellad Speak the Truth to the People, issu de la compilation Wanted Blaxploitation. C'est la sélection de Pitch, notre disquaire, le disquaire de l'Underground Store à Villefranche. Toujours aussi bonne sélection.
Ensemble, sur Kellad.
C'est là-dessus que va se terminer cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous la retrouverez en podcast sur radio-calade.fr et puis en réécoute lundi matin à 10h. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un excellent week-end également. Et puis je vous laisse avec une nouveauté, ça vient de sortir, c'est Lilywood and the Prick, leur dernier titre dans un autre style, un peu plus pop. On écoute le morceau A Song. Prenez soin de vous à lundi, à mardi. Lundi, on sera férié évidemment. À mardi donc, très bonne journée, ciao ciao.
A song for the brokenhearted and anyone who wants it. A song I find I'm always writing about the things I say I quit. Here's the words we never say, games I wish I never played. A song for each one of my lovers, but one that would still please my mother. Here's to warm and wet kisses. Some